Bonsoir et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire L'Amérique et vous. Abdourahman Dia à la présentation ce soir. Cette semaine, l'ancien procureur spécial américain Robert Mueller était devant le Congrès. Il a réaffirmé que les Russes avaient tenté d'influencer les élections de 2016. Il a déclaré que les activités russes visant à porter atteinte à l'intégrité du système électoral américain se poursuivent encore au moment où il s'exprimait, même s'il précise n'avoir pas de preuves que l'équipe de campagne de Donald Trump y participait, donc en 2016. Et récemment, Facebook a également banni une compagnie israélienne accusée d'avoir tenté d'influencer le débat électoral dans plusieurs pays africains. Comment faire face à ces interférences souvent menées via les réseaux sociaux? Ce sera le débat d'aujourd'hui. Avec moi, professeur Souleymane Bachir Gagne de Columbia University et René Lec, analyste politique et promoteur de CNET Plus et Abidjan Plus, entre autres. Bonsoir, messieurs. Alors, je démarre avec vous, professeur Souleymane Bachir Gagne. Mercredi, Robert Mueller a été auditionné par deux commissions de la Chambre des représentants. Deux sorties qui étaient très attendues, mais diversement appréciées. Qu'avez-vous retenu de sa prestation?
Oui, permettez-moi d'abord de vous dire bonsoir et de dire bonsoir à mon ami René Lec également. Et puis, oui, évidemment, c'était le grand événement cette semaine, la présentation devant le Congrès du rapport que le directeur Mueller avait écrit. Ce qu'il y a à retenir, au fond, c'est la confirmation publique qu'il a donnée d'un certain nombre de points qui étaient connus. Il n'y a eu rien de nouveau à proprement parler en termes de contenu, mais le fait qu'il ait, de manière tout à fait publique, confirmé, d'une part, que même s'il n'y avait pas de preuves permettant de porter une accusation contre un président en exercice, le président n'avait pas pour autant été exonéré de toute faute et même de tout crime. Ça, c'était un des points les plus importants. Et effectivement, l'autre point, vous l'avez souligné, c'est l'affirmation qu'au moment même où il parlait, les Russes étaient encore en train d'essayer d'influencer les élections américaines à venir. Et ça, c'est une nouvelle qui est très importante, c'est une information qui est très importante et sur laquelle nous devons tous réfléchir.
D'accord. Alors, René Lec, en termes de perception, quand on voit la couverture de chaîne en continu ici, on a l'impression d'avoir regardé deux événements complètement différents. Et pour vous, qu'est-ce qui serait le titre? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Écoutez, il y a plusieurs titres. Le premier, c'est que le livre était peut-être meilleur que le film. Hein. C'est une des boutades qu'on a beaucoup entendues ces deux derniers jours. Le livre étant, bien entendu, le rapport de Mueller lui-même. Mm-hmm. Et le film étant, justement, le témoignage télévisé qu'on a tous vu et qui a été largement vu par les Américains. Et pourquoi donc le film n'était peut-être pas aussi bon que ce à quoi on s'attendait? On pensait que Mueller aurait peut-être joué un peu plus le jeu. On sait qu'il est venu à ce témoignage un peu à reculons. C'est pas quelque chose qu'il voulait faire. Il avait dit clairement, il avait dit publiquement. Il s'est senti un peu forcé. Il n'avait pas tellement le choix en moment.
Il n'avait pas trop envie de venir.
Voilà,
quoi.
Il se contentait de répondre de manière avec des onomatopées du style oui, non, quelques sons ici et là. Avec très peu de développement. Bien qu'il faudra noter quand même que sur le deuxième témoignage avec la commission des renseignements, il a été
plus à l'aise.
Plus loin. Voilà, il était plus à l'aise. Il allait un peu plus loin que lors du premier témoignage. Mais je suis tout à fait d'accord avec mon ami Bachir, que je salue au passage, et que effectivement il n'y avait rien de tout à fait nouveau. Mais ce qui était important, je crois, pour les démocrates, c'est une chose que d'écrire un rapport, ça n'est une autre que d'entendre la personne qui l'a écrit s'exprimer et le dire tout haut pour permettre à des millions d'Américains qui n'ont pas lu le rapport, qui n'ont pas l'intention de le lire, de bien comprendre ce qui a été dit. Mais même ça, on l'a eu que de manière tout à fait parcimonieuse.
Oui, tout à fait. Souleymane Bachir Diagne, René Lec l'a dit, en d'autres termes, ce n'était pas de la bonne télévision, mais il a quand même dit des choses importantes. Est-ce que c'est un peu la nouvelle norme que d'être quelqu'un qui parle bien à la télé, qui passe bien? Il est clair qu'il n'était pas dans son élément, mais il a quand même donné la substance.
Oui, alors évidemment, l'exercice télévisé demande une certaine présence, un certain charisme, une certaine éloquence qui est propre à ce médium très spécial qui est la télévision. Mmh. Et c'est vrai que ce n'est pas quelqu'un comme le directeur Müller, qu'on connaît réservé, avare de mots, quelque peu taciturne et s'en tenant aux faits. Ce n'est pas lui qui allait, comme on dit, crever l'écran. Mais cela dit, c'est vrai que sa parole était un petit peu hésitante. C'est la parole d'un homme de son âge. Il a 75 ans. C'est la parole de quelqu'un qui ne tenait pas à être là. René l'a dit et c'est tout à fait, ça se voyait. Mais par ailleurs, en termes de contenu, comme vous l'avez dit, la substance y était, effectivement. Et donc, de ce point de vue-là, les démocrates ont eu ce qu'ils voulaient. En termes de déclarations très précises sur des points qui leur permettent maintenant de se demander à bon escient s'il faut ou non poursuivre une enquête qui serait pratiquement une enquête criminelle et s'il faut aller jusqu'à à ce fameux impeachment.
D'accord. Alors, René, aussitôt après, justement, les démocrates ont introduit un projet de loi pour renforcer la sécurité du système électoral et éventuellement empêcher une nouvelle ingérence russe. Alors, pourquoi cette proposition a été bloquée par Mitch McConnell, qui est le leader de la majorité républicaine au Sénat?
Les républicains sont très sensibles par rapport à cette question parce qu'ils sont très au fait que toute question qui touche à cette élection de 2016 et à l'interférence russe met un peu Donald Trump, le président, donc leur leader, le met un peu, si vous voulez, l'agite un peu, voilà. Je crois que c'est la manière la plus simple de le dire. Et donc il cherche à éviter de le contredire, de le contrarier plutôt. Et de ce point de vue-là, ils sont très, très, très frileux. Et c'est quand même assez étonnant parce que, bon, on sait que les républicains, justement, sur les questions vis-à-vis de la Russie et avant ça de l'Union soviétique, ont été plutôt, hardcore, ils étaient plutôt assez radicaux vis-à-vis de leur opposition par rapport à la Russie et avant ça l'Union soviétique. Mais là, à cause de, justement, Donald Trump, de la grande sensibilité de Donald Trump, qui a toujours l'impression que quand on fait allusion à l'intervention des Russes par rapport aux élections de 2016, que c'est en fait une remise en cause de la légitimité de son élection. Donc ça, c'est un problème de fond que les républicains ont, et ils ont du mal à le régler, et cela coûte relativement cher, de mon point de vue, à l'Amérique.
D'accord. Alors, je pense qu'on a un auditeur qu'on peut prendre. Il s'agit de Hassan Omar, qui est à Djibouti. Hassan, bonsoir.
Bonsoir, et bonsoir à vos invités.
D'accord. Vous voulez participer ou vous avez une question pour nos invités? Je crois que la ligne n'est pas très bonne. On va essayer de vous rappeler, espérant qu'on aura une meilleure ligne. Souleymane Bachir Diagne, est-ce que vous pensez que les Américains sont aujourd'hui mieux préparés pour faire face à l'approche, disons, aux prochaines échéances, notamment celle de 2020?
Bon, il est clair que les services de contre-espionnage, eux, sont tout à fait préparés, puisque chat et chaudé craint l'eau froide. On peut parfaitement imaginer qu'ils ne vont pas se laisser avoir une deuxième fois. Donc on peut imaginer que le FBI, la CIA et toutes ces organisations qui ont à faire face à ce genre de menaces tout à fait inédites contre le système démocratique, parce que s'attaquer aux élections, c'est évidemment s'attaquer au cœur même du fonctionnement démocratique des institutions. On peut imaginer qu'ils sont mieux préparés. Il aurait été préférable, d'une part, et je crois, et Müller l'a dit dans son témoignage d'ailleurs, il a indiqué qu'il serait important que d'abord la coordination entre ces systèmes entre ces différentes organisations soit mieux assurée, par conséquent que ces organisations travaillent ensemble, Il a également insisté sur le fait qu'il fallait que chaque Américain, au niveau qui est le sien, tous les responsables politiques, aient la pleine mesure de la menace et fassent ce qui convient. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on comprend mal que cette législation pour protéger les élections à venir n'ait pas été suivie d'effet lorsqu'il s'est agi du président du Sénat, de Mitch McConnell. Cela étant, il y a un dernier point maintenant qui est qu'il aurait été souhaitable pour mieux faire face à la menace qu'au plus haut niveau, évidemment, la décision soit coordonnée par le président de la République lui-même. Or, s'il est pour le moins sceptique sur la nature de la menace, évidemment, ça pose un problème.
D'accord, on va voir si on a plus de chance avec les lignes cette fois-ci à Kinshasa. Alphonse Mbaki, bonsoir.
Bonsoir, mon cher ami journaliste.
Allez-y, on vous écoute. Vous avez une question?
Moi, je pense que pour mettre fin à aux interférences électorales, c'est la responsabilité des États d'établir des lois qui puissent protéger leurs élections. Par exemple, en interdisant aux réseaux sociaux de pouvoir poster des messages qui sont de nature à interférer dans leurs élections. Aussi, non seulement les États, mais également les réseaux sociaux, par contre, cette législation, de pouvoir mettre des lois pour la crédibilité, de censurer tous les messages, au lieu de les laisser passer. Les messages à interférence dans les élections de plus donc.
D'accord, merci beaucoup. En tout cas, voilà. Alphonse, voilà, merci beaucoup pour résumer un peu. Vous dites qu'il faut que les réseaux sociaux bannissent des activités liées aux interférences électorales pour garder leur crédibilité. Alors, René, aujourd'hui, ce sont les médias traditionnels qui sont accusés de fake news, alors qu'il est difficile de convaincre certains électeurs ici que certains des posts Facebook, par exemple, qu'ils ont lus pendant la campagne étaient orchestrés depuis l'étranger. Qu'est-ce qu'il explique selon vous?
Écoutez, Abdourahman, la grosse difficulté avec les fake news et même par rapport à d'éventuelles lois qui permettraient de contenir les effets négatifs de ces fake news, la grosse difficulté, c'est que la question, elle est d'abord technologique. Et là,
je crois qu'on perd un peu René. Je rappelle que vous écoutez l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Abdourahman Dia à la présentation. On va peut-être prendre une petite pause et revenir tout de suite. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Souleymane Bachir Diagne, on va parler un peu de l'Afrique. Il y a aussi des tentatives d'influence qui ont été notées en Europe, mais également en Afrique. Et sur le continent africain, 265 comptes Facebook et Instagram ont été supprimés récemment. Ces comptes dits Facebook sont liés à la compagnie israélienne Archimedes Group, avec pour objectif de manipuler l'opinion. Pourquoi en fait l'Afrique est devenue une cible?
Mais écoutez, vous savez, ça tient à mon avis à deux choses. Premièrement, l'Afrique aujourd'hui dans le monde est un partenaire qui compte. On voit de plus en plus d'articles qui indiquent que l'Afrique, ce n'est plus l'Afrique qui ne comptait pas sur le plan international, l'Afrique avec laquelle le continent avec lequel on ne pouvait avoir qu'un rapport de compassion, un rapport humanitaire, c'est aujourd'hui un continent qui compte. Ça, c'est une première raison qui fait l'Afrique, il n'y a pas de raison, au fond, que l'Afrique échappe à ce genre d'attaque. La deuxième raison, c'est que la démocratie est maintenant relativement bien installée sur le continent africain. Donc, agir sur les opinions, parce que c'est un peu ça, l'arme de guerre de ces attaques qui sont menées contre les systèmes démocratiques, c'est de manipuler l'opinion. Maintenant, les opinions comptent en Afrique. Les opinions peuvent aller dans un sens ou dans un autre, influencer les gouvernements, faire des changements de gouvernement, etc. Donc ça a un sens aujourd'hui d'essayer de manipuler les systèmes démocratiques et les opinions publiques en Afrique de la même manière qu'on les manipule pour l'Europe et pour l'Amérique, parce qu'il s'agit toujours d'avoir des voix, d'avoir le soutien d'un certain nombre de pays pour des actions. Là, vous citez l'État d'Israël. Évidemment, l'État d'Israël serait ravi que l'installation de sa capitale à Jérusalem soit reconnue par un certain nombre de pays. Donc, on peut imaginer, au fond, que c'est dans ce sens-là que l'influence va s'exercer. Et donc, il est effectivement, les démocraties partout, y compris en Afrique, sont sous la menace de ces manipulations de l'information et de ces campagnes de désinformation.
D'accord. Disons que c'est une compagnie israélienne. On ne sait pas vraiment si l'État est impliqué ou pas. Mais en tout cas, ils sont basés en Israël. René, je vous pose la même question. Des pays comme la RDC, le Sénégal, le Bénin ont été cités justement par Facebook comme étant la cible de cette compagnie israélienne pendant en période électorale. Qu'est-ce qui serait l'intérêt pour vous?
Oh, écoutez, je pense qu'un certain nombre d'États qui ont des intérêts, j'allais dire interventionnistes, pour utiliser un mot simple, peut-être un peu simpliste, dans plusieurs régions du monde et d'Afrique en particulier, il est peu étonnant en tout cas que ce type d'État se livre à ce type de pratique. Et vous savez, jusqu'à présent, on ne sait pas quelle est la véritable ampleur de ce type de fausse information. Comme vous le savez, on a appris aujourd'hui même que l'Iran aurait été impliqué dans une manipulation au travers d'un certain nombre de réseaux sociaux il y a quelques jours seulement. Donc je pense qu'il va falloir s'attendre de plus en plus à ce type d'intervention, de fake news, de manipulation utilisant les réseaux sociaux. Alors avant que je ne sois coupé, je ne m'en étais même pas rendu compte. Abdourahman, je dois vous dire, je continue à parler tranquillement.
Désolé alors.
je vous en prie, c'est peut-être même de ma faute, j'en sais rien. Mais écoutez, ce que je voulais dire également, la difficulté que l'on a à légiférer, comme le suggérait l'un de vos intervenants tout à l'heure, je crois, à partir de Kinshasa, et la difficulté que les États démocratiques ont, comme un peu Bachir, c'est que l'Internet, l'ouverture d'Internet, le open source d'Internet est quelque chose qui est déterminant dans l'expression de la parole.
D'accord. Je crois qu'on vous a encore perdu. Oui, là vous êtes de retour.
Voilà. Donc il est très difficile pour les intervenants, pour les États, d'un point de vue législatif comme d'un point de vue technologique, de pouvoir interférer et de pouvoir contrecarrer ces actions. Mais bon, il y a un certain nombre de décisions, il y a un certain nombre de mesures que les grandes compagnies de technologie, notamment Facebook, Snapchat, Instagram, Google, etc., sont en train de prendre pour essayer de contrer au maximum cette diffusion à l'échelle planétaire de fausses news.
D'accord. On me dit qu'on a un auditeur de Guinée, Lanciné Kaba. Lanciné, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Oui, on vous écoute.
Vous
ne semblez pas convaincu par cette affaire d'influence, comme vous le dites, ici aux États-Unis.
Oui, bon, vous savez, j'ai écouté mon frère qui vient de passer tout à l'heure. Voilà, donc on a expliqué des raisons valables. Mais en Afrique, bon, je pense que le problème de la démocratie africaine qu'il a expliqué, donc tout le problème se trouve à ce niveau. Parce que les chefs d'État ou les politiciens du continent africain qui se livrent à ces actes de pratique, c'est tout le manque de confiance en soi. Parce que ce n'est pas les vrais projets. Donc, qui soumettent à la population. Donc, ils sont obligés de livrer à ces arts des pratiques pour influencer les États. Maintenant, il faut quelqu'un pour les aider à le faire. Ils n'ont pas ces moyens, comme une technique et technologie, pour le faire. Donc, il faut s'approcher à un pays techniquement ou technologiquement puissant, donc, pour les aider à faire cela. Il a soulevé aussi un autre point en ce qui concerne Israël, parce qu'il s'agit de l'Israël ici, c'est ce qui est connu d'abord, mais peut-être qu'il y a d'autres pays encore comme les, qui le font, qui font la même chose.
D'accord.
Mais aujourd'hui, ils ne sont pas dévoilés encore. Aujourd'hui, nous parlons de l'Israël. L'Israël est dans une position de, comment on appelle ça, de suivre aujourd'hui l'Israël en train de se protéger. Je voudrais faire comment on appelle tout d'élément lors d'une réunion de la CDAO et Amrovia. Donc, le premier ministre, comment on appelle, israélien était indiqué.
Voilà, vous voulez dire qu'ils ont en fait des influences, enfin des intérêts peut-être à défendre en Afrique. Bon, merci beaucoup en tout cas c'est pour votre point de vue. Souleymane Bachir Diagne, jusque-là, l'influence politique en Afrique était beaucoup plus visible à travers des, disons, des cellules logées dans les présidences ou des ministères des Affaires étrangères en Occident, ou même incarnées par des personnes, je pense notamment à Focar. Aujourd'hui, ces campagnes sont faites via les réseaux sociaux et de façon plus difficile à détecter, et pas forcément une affaire d'État. Qu'est-ce qui est le plus risqué, selon vous?
Ben écoutez, c'est là ce qui est le plus risqué. Mais comme je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, la raison pour laquelle vous avez ce changement, c'est qu'avant, il s'agissait d'agir directement sur les pouvoirs, et donc les cellules qui étaient logées à la présidence, ça avait du sens. Aujourd'hui, il s'agit d'agir sur les opinions, puisque les mécanismes démocratiques sont en place. Et donc, il y a là quelque chose de plus insidieux, de plus difficile à détecter. On ne voit pas trop qui sont les agents, parce que nous avons parlé de manière très vague de cet organisme israélien, mais on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Voilà, donc c'est parce que c'est insidieux que c'est plus dangereux. Et on se trouve devant une situation qui est quand même paradoxale. C'est que les réseaux sociaux sont devenus, par la force des choses, de facto une sorte d'opinion, d'espace public international. On avait dit pendant très longtemps que les réseaux sociaux étaient au service de la démocratie parce que la connectivité était par nature favorable à la démocratie. On se rend compte, en fait, qu'il en est de ces réseaux sociaux comme de la langue des hommes. C'est la pire et la meilleure des choses. Mmh. Ça peut être la meilleure des choses quand il s'agit effectivement d'établir une opinion éclairée, de partager une information.
Liberté d'expression.
Liberté d'expression, effectivement. On l'a vu pendant les printemps arabes. Mais, et ça peut être également la pire des choses lorsque les réseaux sociaux se mettent au de ces acteurs tout à fait obscurs dont on n'arrive pas toujours à discerner les mobiles et les motivations profondes et qui ont une influence absolument considérable parce que ce sont des acteurs décidés à fabriquer des fausses nouvelles. Donc les médias traditionnels sont les médias où les faits sont vérifiés. Ceux qui interviennent à visage découvert, tandis que les réseaux sociaux, justement...
On ne sait pas qui est derrière.
On ne sait pas qui est derrière. Voilà.
D'accord. D'accord. Alors, René, on a vu Cambridge Analytica, la firme britannique qui a été citée ici aux États-Unis pour avoir utilisé des données personnelles dans le cadre d'une campagne électorale. Et cette même compagnie est également citée au Nigeria et au Kenya. Et pour ces cas, ce sont des directoires de campagne des hommes politiques africains qui, apparemment, les ont contactés. Donc, c'est toujours... on ne peut pas dire que ce sont peut-être d'autres personnes qui essaient d'influencer.
Oui, écoutez, en fait, ce qui se passe, c'est que ces instruments, les réseaux sociaux... sont utilisés par des structures institutionnelles, si on peut considérer qu'un parti politique est une institution quelque part, l'État lui-même, donc vous avez les Russes, vous avez ici, dans leur cas, je vous signale que c'est d'abord les Républicains qui les avaient utilisés, ensuite ça a été les démocrates, et vous donnez des exemples même en Afrique. Donc en fait, il s'agit simplement de voir les réseaux sociaux comme tout simplement des techniques, des technologies, des instruments qui sont utilisés et qui prolongent des intérêts institutionnels, qui prolongent d'accord. des intérêts nationaux, qui prolongent des intérêts étatiques.
D'accord,
mais
merci.
Pas, ce n'est pas quelque chose qui en soi pose problème à mon avis.
D'accord, il faut juste...
La logique du pouvoir institutionnel, elle reste la même.
Voilà, il faut juste s'assurer qu'on sait qui est derrière. Merci beaucoup en tout cas à René Leg, merci à Souleymane Bachir Diagne, nos deux invités pour l'Amérique et vous. Dans quelques instants, une autre édition du Monde Aujourd'hui avec John Lyndon. C'était Lionel Gaïma à la mise en onde. Présentation Abdourahmane Dia. Au revoir.
Rouen Afrique.